Seigneur, dans nos obscurités et dans nos doutes, que ta parole nous éclaire, qu'elle nous conduise sur les chemins de ta justice, de la paix et de l'harmonie retrouvée entre les hommes. Quand rôde parfois autour de nous le spectre de la doctrine et de la pensée unique, qu'elle nous rappelle que c'est en nos singularités, en nos différences, que réside la richesse et la justification du monde. Amen. Nous lirons ce matin dans l'Évangile selon Marc, un ouvrage qui n'a de cesse de surprendre par sa rhétorique très particulière. Un ouvrage dont il me paraît intéressant de rappeler, à l'éclairage des récentes découvertes menées par François Vouga, que nous avons accueilli il y a quelques semaines pour les cultes conférences, et Carmen Burkhalter, que son auteur pourrait en réalité être une autrice évoluant dans les cercles pauliniens du 1er siècle. Cette hypothèse trouve sa substance dans différents extraits, dont celui qui va suivre. Je vous propose donc la lecture des versets 3 à 9 du chapitre 14. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et, ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns exprimèrent entre eux leur indignation. À quoi bon perdre ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. Et ils s'irritaient contre cette femme. Mais Jésus dit : Laissez-la. Pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. Car vous avez toujours les pauvres avec vous et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas toujours avec vous. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors que les disciples sont attablés, assemblée a priori exclusivement masculine, selon les usages de la société judaïque d'alors, une femme fait irruption. Qui est-elle ? Marc, ou supposait-elle, ne nous le dit pas. Un vase d'albâtre, du nard, un matériau raffiné, si ce n'est précieux, une huile parfumée de grand prix, voilà peut-être les seuls indices sur son identité. Qui peut bien les posséder ? L'épouse d'un riche propriétaire ou d'un riche étranger ? Ou, qui sait, une femme entretenue qui monnaie ses charmes, autrement dit, une courtisane ou une prostituée ? Parfaitement anonyme ici, comme dans le récit de Matthieu d'ailleurs, cette femme deviendra chez Luc une pécheresse à la sensuelle chevelure lâchée. Cette femme ne parle pas. D'ailleurs, a-t-elle droit à la parole pendant une réunion d'hommes ? Ceux-ci discutent-ils seulement ou prennent-ils leur repas ? Auquel cas, le seul rôle dévolu à cette femme à cet instant serait, toujours selon la norme sociale d'alors, le service. Pourtant, en la laissant entrer et agir, Jésus la reconnaît en tant que personne, elle qui est habituellement mise à l'écart de l'action, de la décision. Elle est ainsi ressuscitée. Cette femme rompt le vase, c'est-à-dire brise le sceau qui le ferme et répand sans doute avec soin l'huile précieuse sur la tête de Jésus. Geste sacralisateur, d'autant plus scandaleux s'il est exécuté par une exclue. Le verbe « rompre » traduit peut-être aussi la notion de transgression. Comment une inconnue qui aurait pu obtenir ce riche présent de façon contestable peut-elle oser s'approcher du maître et porter ses mains vers lui ? Mais est-ce bien cela qui scandalise les disciples ? En réalité, pas vraiment. Ce qui les indigne, ce n'est pas le geste lui-même, mais précisément la valeur du produit répandu. On aurait pu en tirer 300 deniers. Pour mémoire, un peu plus tard, Judas livrera Jésus pour 30 deniers, 10 fois moins. Véno, les disciples, bien sûr que non, ils s'en défendent. Cette somme aurait été destinée aux pauvres, pas à eux-mêmes. Mais une telle justification de leur réaction spontanément très critique ne témoigne-t-elle pas justement d'une relation très particulière à l'argent ? Leur attitude soulève également un autre problème de fond. Ils semblent considérer que le parfum répandu est trop précieux pour leur maître. Alors, il est certes le Fils de Dieu, mais tout de même, quelle dépense somptuaire ! À quoi bon perdre ce parfum ? Au lieu de se réjouir, ce qui n'excluait pas d'admettre une certaine démesure du geste, il s'indigne pour une question d'argent, ce qui interroge la force de leur conviction, ou du moins conduit à se demander, aux yeux des disciples, que vaut-il ce Seigneur ? À l'évidence, ils ne comprennent pas que ce geste, qu'ils jugent inadapté, est d'abord le signe d'un amour sincère, sans calcul, inconditionnel. Et si on se limite à la pécheresse suggérée par Luc, peut-être faut-il y voir une forme de repentance, pas seulement une demande de pardon, mais plutôt une volonté de conversion, de changement de vie. Peut-être même a-t-elle appris, cette femme, que la vie de Jésus était menacée, sa mort inévitable. Il l'a dit à son entourage et les gens parlent autour de lui. Ce geste constitue alors pour elle une ultime preuve de foi, un dernier geste d'amour désespéré en reconnaissance à celui qui va disparaître, comme un adieu. Il faut que je lui montre avant qu'il soit trop tard. Contrairement aux disciples, pour cette femme, dans sa foi, son amour, peu importe le prix terrestre de son offrande, Jésus, dont elle va peut-être jusqu'à pressentir le destin imminent, le vaut bien. Alors, me direz-vous, la scène est assez théâtrale, l'offrande de trop grande valeur peut-être, mais cette femme agit de façon désintéressée et spontanée. Elle exprime en silence sa foi sincère, son amour et sans doute sa gratitude envers Jésus, dont la parole est parvenue jusqu'à elle et a redonné sens à sa vie. Cette offrande est louange, peu importe qu'elle plaise ou déplaise aux disciples. Elle a fait ce qu'elle a pu, avec ses moyens, ses références, ses normes. C'est trop, ou c'est trop beau, sous-entendu, c'est trop cher. Qui n'a jamais entendu cela à propos d'un cadeau offert ? Comme s'il était question d'un quelconque mérite, d'argent gâché, ou peut-être d'une forme de redevabilité. Et puis, il faut bien le reconnaître, il y a des cadeaux qui peuvent ne pas plaire, devant lesquels il faut s'efforcer de faire bonne figure, d'abord saluer l'intention de celui qui offre. Cette femme offre ce qu'elle a, sans arrière-pensée. Elle veut faire quelque chose de bien. Pourquoi contester ou railler alors sa démarche ? Paradoxalement, on lui reproche d'offrir trop. Et alors ? D'autant que Jésus ne dispose pas du parfum à sa guise. Elle le lui verse sur les cheveux. Son offrande, ce n'est pas seulement le produit, mais aussi et surtout l'onction. Cette compréhension globale, cette empathie, les disciples ne l'ont pas. Et loin de la valoriser, se bornant à défendre ce que eux considèrent comme convenable, ils dénigrent cette femme et lui causent de la peine. Comme le dirait Matthieu, pourquoi voit-il la paille dans l'œil de cette femme et non la poutre dans le leur ? Ce qu'ils auraient dû apprécier ici, c'est sa volonté de bien faire, la gratuité et non le détail ou les effets de son action. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, Ésaïe chapitre 35, verset 5, mais ici, pas encore. Par sa réponse, Jésus enjoint ses disciples à s'attacher non à la valeur matérielle, mais à la valeur humaine et spirituelle de nos actes, à porter sur l'autre, quel qu'il soit, fût-il une femme, dans les sociétés d'hier, d'aujourd'hui et de demain, un regard bienveillant, tolérant et affranchi de toute cupidité. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. C'est par ces quelques mots étranges et pesants que Jésus s'apprête à conclure ici son enseignement. Il affirme, comme il a déjà pu le faire et le fera encore, l'inéluctabilité de sa propre mort. Le geste de cette femme intervient alors comme une anticipation des rites funéraires et du processus de deuil traditionnellement rythmé dans le judaïsme. Il manifeste une conscience de la temporalité physique de Jésus dans ce monde et la projection dans une intemporalité de son message à faire vivre au siècle des siècles. Ceci posé, revenons quelques instants à l'objet central de cet épisode. Un vase d'albâtre renfermant un parfum de nard pur de grand prix. Ces détails, loin d'être anecdotiques, constituent peut-être d'importantes clés de lecture chez celui ou celle que l'on surnomme volontiers l'évangéliste du secret. Ne faut-il pas se demander, ici comme ailleurs dans l'ouvrage, quel message dissimule ses façades descriptives et son aridité sémantique ? Spontanément, que lit-on ? La problématique posée par la valeur vénale d'un produit précieux et de son contenant. Qui sait pourtant si un angle plus symbolique ne compléterait pas notre lecture ? La traduction courante de vase en albâtre oriente vers un matériau précieux ou semi-précieux. C'est oublié un peu vite que dans le grec ancien du 1er siècle, alabastron, en français alabastre, est un terme générique désignant un vase allongé et étroit, destiné à contenir du parfum ou de l'huile de massage. Si l'origine étymologique du terme est bien albâtre, il n'en demeure pas moins que l'usage linguistique a progressivement fait abstraction du matériau dans cette qualification. Or, ce premier biais de traduction remet en cause un premier critère sur la valeur communément admise de l'offrande faite à Jésus, qui concerne non seulement le parfum, mais aussi le vase. Arrêtons-nous aussi sur ce nard pur de grand prix. La désignation nardoux de cette huile parfumée obtenue pour information, j'ai fait les recherches moi-même parce que je ne savais pas trop de quoi il s'agissait, à partir du rhizome d'une sorte de valériane, bon, pour le coup est sans ambiguïté. Il en va différemment des deux qualificatifs qui l'accompagnent, dont la traduction est, je dirais, au mieux approximative, au pire arbitraire. Pisticos signifie bien pur, mais aussi digne de confiance, fiable, authentique. Polytellus indique le caractère de ce qui a un grand prix, de ce qui est cher, au sens pécuniaire, mais aussi au sens affectif de ce qui est aimé. Et si ce vase d'albâtre contenant un parfum de nard pur de grand prix, ou plutôt cette enveloppe contenant quelque chose de caché, scellé jusqu'alors, mais digne de confiance et d'amour, était la figuration du croyant, ici de la croyante, offrant ce qu'elle a de meilleur en elle à l'écoute de la parole. Dans cette acception, Il n'est plus question d'objets précieux au sens matériel, ni de présuppositions quant à la vertu de celle qui le présente. Simplement d'une personnalité féminine, tout à fait neutre, ni spécialement riche, courtisane ou prostituée. C'est une inconnue qui fait son entrée, dans toute son authenticité, sa confiance, pour servir et s'enrichir de la foi à laquelle Jésus nous invite. Par un geste qui rappelle l'onction des rois dans la tradition judaïque, elle consacre Jésus dans sa royauté, royauté dont il indiquera lui-même un peu plus tard, dans un autre évangile, qu'elle n'est pas de ce monde. Elle reconnaît en lui l'expression supérieure et la transmissibilité de la parole. Pour les disciples qui suivent Jésus depuis longtemps et ne comprennent pas toujours tout de son enseignement, sont parfois même rétifs ou méfiants, l'évidente spontanéité de la situation est éminemment vexante et peut expliquer la verdeur de leur réaction. Un autre détail sémantique peut nous surprendre dans cet extrait. Pour verser le parfum, l'inconnu rompt le vase. En réalité, brise le sceau qui maintient son opercule. Elle libère donc l'accès au parfum, elle le révèle. Une révélation qui mentionne des sceaux brisés sur un livre cette fois, nous en connaissons une autre, en grec Apocalypsis. L'individu symbolisé par ce vase et ce parfum révèle donc à la rencontre de Jésus ce qu'il a de meilleur en lui, ce qu'il a de plus beau à offrir, dès lors qu'il se présente en confiance et en sincérité. L'évangéliste nous aide alors donc à conclure une double révélation. Ce que chacun de nous a de précieux dans sa personnalité, dans son individualité, il ne peut l'exprimer et le développer vers l'autre à travers la parole reçue qu'en acceptation de l'amour inconditionnel de Dieu. Et peu importe que le flacon soit précieux ou décoratif, si le parfum qu'il contient ne peut être versé. Par cette possible clé de décodage, l'auteur ou l'autrice entre d'ailleurs en résonance avec le trésor dans les vases d'argile évoqué par Paul dans sa seconde épître aux Corinthiens. Ce court récit questionne notre regard sur l'action de l'autre, sur le degré de compréhension que nous pouvons lui donner, en dehors de toute échelle de valeur. Le personnage, finalement assez anodin d'une inconnue, nous apprend qu'être soi-même, accéder à l'autre, lui offrir ce que l'on a de Dieu en soi et prendre de lui en retour, tout ceci n'est possible qu'en une foi confiante et sincère. C'est bien parce qu'il nous a aimé le premier que cette faculté nous est donnée. Non, il n'est pas coûteux de croire et à le faire sans calcul, en espérance, le bénéfice pour soi-même et pour les autres n'en est que plus grand. Elle a fait ce qu'elle a pu. Sous-entendu, elle l'a fait, elle. Et elle avait raison de le faire, même si cela vous bouscule dans vos repères. Nulle déculpabilisation facile, fatalité ou limite dans cette petite phrase, mais au contraire, un horizon ouvert devant nous. Partout où la bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ce n'est pas tant la valeur d'une offrande ou la portée ponctuelle d'un comportement que Jésus désigne ici, mais plutôt la posture du croyant universel et intemporel. Il nous exhorte à apprécier la bienveillance de l'autre pour ce qu'elle est, sans jugement ni calcul, et à nous placer nous-mêmes dans une posture de libre croyant, pour reprendre une autre formule chère à Charles Wagner. Dimension multiple et dynamique, donc, d'une foi qui questionne sur soi-même et ouvre nos cœurs en acceptation en compréhension, en reconnaissance. Amen.
Merci Hervé pour cette belle et riche prédication. Je pense que son écho, plutôt son parfum, pourra au moins aller jusqu'à mardi, 8 mars, journée internationale des droits des femmes. Et puis de toute façon, chaque autre jour pour la reconnaissance de la bienveillance d'autrui. Voici le moment de confesser notre foi. Je vous invite à vous lever.